Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, la situation des urgences de l'hôpital de Manosque s'aggrave. Les fermetures de nuit se répètent et la semaine dernière, une première porte close a duré plus de 24 heures. Inquiétude et mobilisation grandissent. Le forum leader de Digne a permis des échanges fructueux entre les utilisateurs du programme européen. Odile Frison s'y est rendue. Ouvrons un beau dossier scolaire dans Force 7 avec plusieurs sujets dans des établissements. Et d'abord, grâce au dispositif européen Erasmus+, l'école de Corbière a accueilli des enseignantes roumaines et turques. Des élèves éco-délégués de plusieurs établissements du 04 étaient réunis pour plancher biodiversité et développement durable. Le reportage d'Odile Frison pour Force 7. Estampillé philo, un concours d'éloquence a permis l'expression de plusieurs élèves talentueux du lycée des Iscles à Manosque. Le retour de Berlu est le dernier roman de Serge Panis. Chris Alessandri a interviewé l'auteur. Pierre Vert accueille le 24e salon Minéraux et Fossiles ce week-end. Gilles Corna présente cet événement minéral au micro de Mathieu Marc. Hôpital de Manosque, fermeture durable pour les urgences.
Comme dans plus de 120 centres hospitaliers de France, le service des urgences de Manosque n'en finit pas d'accumuler des jours et des jours de fermeture. De quoi inquiéter la population qui envisage un rassemblement devant l'établissement le 7 juin au matin. Depuis plusieurs semaines, la mobilisation s'accélère et un collectif s'est formé pour défendre les urgences. Samedi dernier, jour du marché, un stand proposait des flyers et une pétition aux Manosquins. De nombreuses signatures y ont été recueillies. Une personne membre du collectif exprime son étonnement face au silence du maire de Manosque, Camille Galtier, qui préside le conseil de surveillance de l'hôpital Louis Raffali et à qui une demande de rendez-vous a été signifiée. Un autre rendez-vous est en cours avec le directeur de l'établissement, Franck Pouilly, qui depuis plus de 3 mois avance la pénurie de médecins. Madame, vous êtes présente à Manosque et vous faites signer une pétition pour sauver, entre guillemets, les urgences de l'hôpital.
Exactement. Oui, là, les urgences ferment trop souvent. On ne peut pas dire à temps complet pour l'instant, mais on a peur effectivement qu'elles le soient à temps complet. Parce que la réponse étant, on n'a pas de médecin, on ne sait pas le pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on a peur effectivement, non seulement qu'elles soient fermées à temps complet, mais on a peur de la situation cet été quand on aura tous les touristes. On craint les morts carrément.
Aujourd'hui, samedi 28 mai, les urgences sont fermées toute la journée. Ça, c'est une première.
Oui, c'est une première. On nous disait, mais non, on fait ce qu'on peut. Mais effectivement, on voit qu'on va vers quelque chose de toujours plus tendu. Et ça, on ne peut pas accepter. D'autant plus qu'on a appris hier aussi que les urgences à Aix étaient fermées. Alors lorsqu'on va envoyer les malades, ça va être toujours un peu plus loin, vers des endroits toujours un peu plus saturés, parce que forcément, quand il y a fermeture, on est obligé de les envoyer ailleurs.
Vous avez rencontré le directeur de l'hôpital, Franck Pouilly ?
Non, nous ne l'avons pas rencontré, mais c'est notre intention. Parce que en cherchant justement sur le conseil de surveillance, normalement, les usagers doivent pouvoir avoir les procès-verbaux du conseil de surveillance. Et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et d'interpeller à tous les niveaux. Donc lui, on va sans doute aller le voir aussi.
Vous avez essayé de voir le maire de Manosque, Camille Galtier, qui siège au conseil de surveillance.
Oui, alors Camille Galtier, on lui a demandé un rendez-vous. Il nous a fait recevoir par une conseillère municipale à qui on a demandé encore une fois que le maire nous reçoive. Mais on n'a pas eu de réponse à ce jour. On a demandé la tenue d'un conseil municipal extraordinaire sur la question, ou ordinaire, mais en tout cas au moins que le conseil municipal se définisse. Et on n'a toujours pas eu de réponse.
Pour revenir à la pétition que vous faites signer, les citoyens sont mobilisés ?
Les citoyens sont très mobilisés. Alors la pétition, elle est connue par le biais comme ça des marchés. et elle est connue par le réseau social qui est Facebook. On demande à ce que les citoyens eux-mêmes se mobilisent et transmettent l'information aux autres, ce qui marche très bien puisqu'on est quand même 510 inscrits dans le collectif. Il y a presque plus de signatures dans le collectif que de pétitions, donc je pense que c'est de bon augure.
Et puis vous préparez évidemment la journée du 7 juin avec une grande manifestation, cette fois-ci à l'hôpital de Manosque.
Voilà, exactement. Le 7 juin, donc, ce sera avec les organisations syndicales, politiques. On espère, à force d'intervenir auprès des élus, que les élus se mobiliseront aussi, comme l'a fait Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées, où tout le monde s'est réuni, les soignants, les élus, les citoyens, pour se rassembler sur la cause.
Quand le programme européen Leader se partage.
À Digne, la soirée dédiée au programme européen a permis à une vingtaine de porteurs de projets de présenter leurs initiatives et de témoigner de leur expérience. Les interventions ont permis de faire le bilan de la programmation qui s'achèvera en 2023 et d'évoquer les évolutions envisagées pour la période 2023-2027, avec notamment un projet de fusion des GAL, les groupes d'action locale, Dignois et Durance-Provence, et une simplification des démarches grâce à la dématérialisation. L'événement avait vocation à faire connaître le programme et les possibilités de financement qu'il offre et a également permis de valoriser, de donner la parole aux porteurs de projets financés par Leader. Plus de 9 millions d'euros d'argent public ont été investis sur le territoire depuis 2016. Ces investissements ont fait émerger des initiatives et de nouveaux partenariats bénéficiant aux acteurs publics, entreprises et associations. Au micro d'Odile Frison, Pénélope Guidi, chargé de mission Leader pour Provence-Alpes Agglomération, puis le témoignage de l'un des porteurs de projet, Nathalie Vanni, première adjointe à la mairie de Volonne, et enfin Mathilde Stocklin, qui est chargée de projet pour la commune de Volonne.
L'objectif de la soirée d'aujourd'hui, c'est de mettre à l'honneur les projets qui sont financés sur cette programmation et donc les porteurs que vous pourrez découvrir sur les forums. Ce sont des porteurs qui ont amené chacun un bout de leur projet pour montrer qu'est-ce que Leader peut financer sur les territoires et qu'est-ce qu'il peut faire émerger comme démarche à l'échelle des provinces Alpaglo.
Ce sont des dossiers qui sont longs à monter.
Alors, ce sont des dossiers qui demandent du temps, oui, mais ce sont des dossiers qui peuvent être financés aussi à hauteur de 90% parfois du montant du projet. Donc, effectivement, ça demande du temps et du suivi, mais ça peut valoir le coup.
Donc aujourd'hui, c'est aussi des tables rondes. Comment ça va se goupiller tout ça?
Nous allons commencer par un temps sur scène avec la présentation d'abord des résultats de cette programmation par une technicienne des Provinces Alpaglo qui a réalisé l'évaluation du programme. Ce temps sera suivi d'une table ronde avec différents acteurs et partenaires du programme Leader qui viendront chacun faire un petit peu les bilans et donner des perspectives pour la nouvelle génération. Suite à ça, il y aura un interlude musical par les élèves du conservatoire qui ont aussi porté un projet Leader au travers de l'association des parents d'élèves pour renouveler les instruments de musique qui sont utilisés par les élèves. Et à partir de là, on vous laissera libre accès au forum des porteurs de projets.
Beaucoup de personnes se sont inscrites?
On devrait avoir une centaine de personnes sur la soirée.
Nathalie Vanni, première adjointe à la mairie de Volonne, donc pas loin de Sisteron. Nous sommes à une dizaine de kilomètres. Nous sommes très engagés pour la nature et en fait, on voulait vraiment encore s'améliorer et le faire savoir. Pour cela, nous avons notre chargée de projet qui est là à côté de moi, Mathilde Stocklin, qui s'occupe de faire avancer ces dossiers-là parce que sans elle, malheureusement, comme beaucoup de mairies, les dossiers seraient en souffrance. Donc, on a mené beaucoup d'actions. Que ce soit, on va dire, sur tout ce qui est refuge LPO, voilà, on a des actions aussi réalisées, c'est-à-dire que nous avons mis en place une plateforme de compostage avec des jardins partagés au sein de la commune, au sein de notre éco-quartier qu'on a fait sortir de terre, de toutes pièces, c'était vraiment assez impressionnant. On a aussi inauguré, on a créé une cantine avec une toiture entièrement photovoltaïque, donc c'est une centrale citoyenne. très très belles réalisations. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Des actions, une élaboration de projets comme Volonne zéro déchet, Sauvons l'eau, Climat et énergie, Village nature. Alors voilà, essayer de faire en sorte de traiter le déchet le plus favorablement, c'est-à-dire le valoriser ce déchet, parce qu'il a une valeur, le prévenir certes, mais aussi le valoriser. Le prévenir, c'est en signant la charte zéro plastique par exemple. Donc on s'engage à ne plus utiliser tout ce qui est vaisselle jetable par exemple, limiter vraiment au maximum tout ce qui est plastique. On est allé même un petit peu plus loin en essayant de travailler avec les écoles pour que voilà, les couvertures des manuels, des cahiers, etc. soient plus cartonnées que plastiques. Donc on est vraiment dans cette démarche-là aussi, mais partenariale, parce qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, ce n'est pas possible. Démarche très très partenariale. Donc il y a aussi une belle action qui a été réalisée, c'est l'émergence de cette gratuiterie à Volonne. Donc c'est un petit local qui s'est ouvert donc, avec un collectif. Donc on a mis à disposition ce local, on l'a aménagé. Et en fait la gratuiterie c'est un espace où on vient poser, donner, et les gens qui passent peuvent récupérer. Il n'y a pas d'argent, c'est vrai que du don, voilà. Donc ça, c'est super parce que ça génère un nombre de passages incalculable. Bon, et surtout par les temps qui courent où c'est un petit peu difficile.
C'est du troc.
Vous pouvez aussi soit que donner, soit que prendre. On ne vous demande rien. On vous saluera gentiment et vous faites votre tour. Et si vous voulez amener, c'est très bien. Si vous voulez prendre, c'est très bien. Mais on ne vous demandera rien d'autre. Voilà. Ce qu'on a fait aussi, on a fait avec Mathilde un poulailler collectif, c'est-à-dire qu'il y avait là aussi un collectif qui s'était monté et nous ont demandé, voilà, nous on aimerait un petit poulailler, est-ce que vous nous autorisez sur la parcelle communale à le monter? On a dit, bien sûr. Donc là, c'était vraiment avec une plateforme de compostage pour, du coup, pouvoir gérer les déchets alimentaires, gérer aussi les fientes des poules, parce que malheureusement, ça, il faut les gérer aussi. Et du coup, une convention a été passée entre le collectif et la mairie pour justement que cet espace soit le mieux géré possible et qu'il n'y ait pas de nuisance par rapport aux voisins. Mais je pense que ça se passe relativement bien. Tout le monde est content parce qu'en plus, il y a distribution d'œufs après aux riverains et je pense que là, ça marche pas mal. On a candidaté à beaucoup de dossiers et on a eu des labels. Ça, par contre, je vais laisser la parole à Mathilde parce qu'il y en a tellement que je ne voudrais pas oublier et faire l'impasse sur tout son travail parce que c'est beaucoup grâce à elle que nous avons eu ces labels.
En fait, toutes les actions que Nathalie vient de citer, on a été récompensés par deux labels qui est Territoire engagé pour la nature et Territoire une COP d'avant. Donc, c'est des labels de la région. Ça nous valorise au niveau de la région.
Ça nous pousse à nous améliorer aussi, puisque bon, quand on reçoit des labels comme ça, on se dit, bon, il y a un label comme ça, puis il y en a un autre qui se présente, et on se dit, ben oui, on veut y aller, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un cran au-dessus, et ça nous donne encore plus envie de progresser et de faire progresser notre village. Donc on met aussi en place des formations pour nos agents, ça c'est super important, que ça soit sur le compostage, que ça soit sur d'autres secteurs. On essaye de faire participer le plus possible aussi les habitants. Mathilde a créé le premier livret éco-citoyen, où là on avait toutes les bonnes pratiques, c'était super. Et le deuxième livret participation citoyenne. C'était aussi pour faire immerger, parce qu'on a vraiment ce deuxième mandat, on s'est dit, on veut vraiment que les Volonnais puissent faire immerger des projets et qu'on puisse les accompagner, comme on l'a fait avec la gratuiterie, comme on l'a fait sur une épicerie bio. La personne est venue nous voir, on a dit voilà, mon avis, mon envie, je voudrais faire ça. Et on l'a accompagnée, elle est dans un local qui appartient à la commune. Donc voilà, essayer d'accompagner au maximum les gens qui viennent nous voir et du coup, ben, faire s'ouvrir encore plus le village. C'est vraiment notre envie et je pense que c'est pas mal. Voilà, on y arrive. Alors c'est sûr qu'il faut être tenace, il faut avoir des gens aussi très compétents comme Mathilde qui bossent beaucoup. Bon, il y a certes la ligne politique, mais il y a aussi des personnes comme ça qui ont envie de travailler et qui s'impliquent à fond pour leur village. C'est une condition, on va dire, sine qua non pour que les choses aboutissent.
Erasmus Plus débarque à Corbière.
Ouvert aux étudiants, apprentis et enseignants, le programme européen a un volet d'éducation conséquent. C'est dans ce cadre que l'école de Corbière en Provence procède à un échange avec deux établissements en Roumanie et Turquie. en accueillant leurs collègues venus de la ville turque d'Adana et d'Oradea, en Roumanie, les professeurs françaises ont fait travailler leurs élèves sur les questions de développement durable. Des échanges fructueux ont eu lieu en anglais afin de présenter ce que les villes, à plusieurs centaines de kilomètres, enseignent pour protéger la planète. Des disparités cependant quant à la population de trois communes, 200 000 habitants pour la Roumanie et 1 500 000 pour la ville turque, c'est beaucoup comparé aux 1 300 corbérins. Le séjour des délégations étrangères a été ponctué d'une soirée où des responsables de l'agglomération manosquine ont présenté le mode de gestion et de tri des déchets. Dans quelques mois, les enseignantes basalpines se rendront en Turquie puis en Roumanie afin de parfaire cet échange. Je vous propose d'écouter le maire de Corbière, Jean-Claude Castel, puis Vincent Alvar, vice-président de la DLVA en charge de la gestion des déchets, avec qui nous évoquons le futur méthaniseur de l'agglo, mais d'abord Emmanuel Broutin pour l'école de Corbière. Emmanuel Broutin, vous êtes professeur des écoles à Corbière et vous avez organisé quelque chose de très particulier.
Oui, avec deux autres écoles, l'école de Turquie et l'école en Roumanie. L'école de Corbière a rédigé un projet Erasmus+, financé par l'Union européenne. Ce projet dont le thème est le développement durable.
Vous avez donc planché sur la gestion des déchets, sur les économies, sur l'alimentation par exemple.
Le projet est réparti en trois thèmes. Pour la France, ce sera sur les énergies renouvelables, les éoliennes, l'hydroélectricité, les barrages hydroélectriques, les panneaux solaires. Pour la Turquie, nous allons parler du gaspillage alimentaire et comment le résoudre. Et en Roumanie, le travail porte sur également la réduction des déchets avec le recyclage des vêtements, du mobilier, recycler l'électroménager.
Avec vos collègues de France, vous allez vous rendre en Roumanie et en Turquie.
Oui, en mars 2023, nous allons en Turquie travailler sur le thème du gaspillage alimentaire. L'année suivante, en 2024, nous terminerons par la Roumanie.
C'est fructueux ce type d'échange pour vos élèves ?
Oui, je pense, parce que nous échangeons toutes les bonnes pratiques avec les collègues et puis les enfants voient vraiment concrètement les partenaires européens. Nous parlons anglais, nous avons préparé vraiment un gros travail avant leur arrivée et puis nous allons continuer tout au long de ces 2 années.
Vous avez vu des idées sur les films qui ont été projetés de Roumanie et puis de Turquie qui peuvent être transposés à ce que vous faites ici en France ?
Oui, pour présenter notamment notre pays, mettre en valeur notre village, mettre en valeur l'école française et ce qu'elle propose, et donner des idées, pourquoi pas, d'autres partenaires européens, et surtout notamment faire prendre conscience aux élèves qu'ils font partie de l'Europe et sont citoyens européens pleinement, en plus d'être citoyens français.
À vos côtés, Jean-Claude Castel, qui est le maire de Corbière, vous avez reçu ces enseignantes avec beaucoup de plaisir.
Bien sûr, à partir du moment où l'école de Corbière participe, moi ce qui m'importe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'épanouissement et l'enrichissement des enfants de Corbière. Ça, c'est un moyen extraordinaire de voir ce qui se passe ailleurs, de faire des échanges comme ça. De tout temps, ça existait, mais aujourd'hui, c'est peut-être encore plus prégnant. Et puis, l'inspecteur d'académie a dit quelque chose de très juste. Par les temps qui courent, avec les conflits qui sont à nos frontières, se réunir pour des projets innovants, respectueux de l'environnement et qui vont dans le sens de l'histoire d'aujourd'hui, je pense que c'est très important. Et c'est pour ça que, comme je ne suis pas un spécialiste, je fais appel à mon ami Vincent qui va t'expliquer exactement ce qu'il est venu faire ici ce soir.
Vous avez remarqué d'ailleurs que vous allez former des citoyens européens, ce qui est une nuance importante. Vincent Alvar, vous êtes vice-président de la DLVA, en charge notamment de l'organisation de la gestion des déchets, et vous avez expliqué un peu votre dynamique à tous ces enseignants.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est un projet qui est initié sur la commune de Corbière. Alors, DLVA Aglo vient en soutien sur les projets, les différents projets que sont portés par les communes, et d'autant plus quand il s'agit de la gestion de l'environnement et de la gestion des déchets pour de la prévention. Oui, à ce titre-là, nous venons un petit peu expliquer ce qu'on peut faire, l'expérience qu'on a sur notre territoire, qu'on peut partager, et puis les projets qu'on a, que ce soit au niveau de l'alimentation, sur la gestion des biodéchets, que ce soit au niveau des nouveaux équipements qu'on souhaite mettre en place avec des nouvelles déchetteries modernes, ou le biométhaniseur sur notre territoire de l'agglomération.
Justement, où en est-on avec ce dossier ?
Le dossier du biométhaniseur avance. Nous travaillons avec la commune de Manosque pour qu'il puisse aboutir le plus rapidement possible.
Il sera utile pour toute la région ou en tout cas pour la DLVA ?
Il est dimensionné pour limiter le nombre de flux de camions sur le territoire. On est sur un équipement qui est à l'échelle du territoire de l'agglomération et de ses alentours, avec les petites communautés de communes qui la composent. Oui, c'est un équipement adapté à notre territoire.
Et pour le calendrier ?
Le calendrier, on est sur... moi, j'ai un espoir 2025, voire 2026.
Des élèves responsabilisés vers un changement global.
Une journée de rencontre s'est tenue entre les jeunes éco-délégués des établissements du réseau Bléone-Durance. Il s'agissait de réfléchir et travailler ensemble afin d'élaborer des solutions pour les défis de demain en matière de biodiversité et de développement durable. Les collèges de Seine-les-Alpes, Sisteron, La Motte-du-Caire, Château-Arnoux-Saint-Auban, Borély et Gassendi de Digne-les-Bains étaient représentés, de même que l'EREA de Haute-Provence et les lycées de Digne, Baudrochas, Alexandra Davinel et Pierre-Gilles de Gênes. CPE au lycée Pierre-Gilles de Gênes, Stéphane Vivdes, présente le déroulement de la journée au micro d'Odile Frison, puis Quentin Cluet, l'un des éco-délégués, fait part de son expérience, mais d'abord, le réseau Bléone-Durance évoqué par son délégué, Stéphane Vieudès.
Le réseau Bléone-Durance, c'est 79 établissements dans un triangle qui comprend Sisteron, Seine-les-Alpes et Saint-André. Rencontre des éco-délégués, donc chaque établissement, collège, lycée et les CM1, CM2 doivent avoir des éco-délégués qui représentent leurs élèves, c'est-à-dire des élèves qui agissent pour le développement durable. Et aujourd'hui, avec nos collègues référents EDD, nous avons décidé de les réunir pour qu'ils se rencontrent et qu'ils rencontrent des partenaires, les partenaires comme le Cidevom, comme J'espère, comme les Bouchons d'Amour, comme Canopée, et également des ateliers sur la biodiversité. Comment réparer la biodiversité, comment la préserver. Donc toute une journée de réflexion et de travail, et l'après-midi qui se termine par une projection d'animal de Cyril Dion, Cine-étoile de Digne.
Les élus sont venus pour récompenser les éco-délégués. Comment ça s'est passé ?
Oui, nous avons organisé un concours, le concours du prix de l'action des éco-délégués. Chaque établissement était invité à faire un petit film de 2 minutes pour présenter leurs actions. Donc 4 films ont été récompensés et un coup de cœur spécial a été donné à l'EREA de Haute-Provence. Ce sont des petits films qui présentent les actions de nos jeunes.
Donc ce matin, c'était la rencontre avec plein d'ateliers. Est-ce qu'on peut rappeler les différents ateliers qu'il y avait ?
Alors, des ateliers avec nos partenaires, je vous disais, sur le tri avec le Cidevom, le CPE 04 qui aide les établissements scolaires à monter des projets sur le développement durable. J'espère également qu'ils travaillent avec nous. Canopée, qui est un centre de documentation pédagogique pour aider les enseignants. Les Bouchons d'Amour, qui sont partenaires, puisque nous avons récolté tout au long de l'année des bouchons dans les établissements et nous avons remis ces bouchons à l'association. Et d'autres partenaires, bien sûr, l'Éducation nationale, et qui nous accompagnent.
Ces rencontres ont lieu chaque année.
C'est la première rencontre, c'est un test, après 2 années Covid et le lancement des éco-délégués, on avait envie que nos jeunes se rencontrent, échangent sur leurs pratiques et essaient aussi de mutualiser certains projets. Je sais que les lycéens du lycée Pierre-Jules Gênes veulent travailler avec leurs camarades de Baudrochas, donc voilà, ils réfléchissent sur des projets communs. Les collèges travaillent aussi ensemble sur certaines actions. Donc on essaie de faire rencontrer les jeunes avec ce moment convivial également.
Donc aujourd'hui, c'était la rencontre et il y aura bien sûr des suites de nouvelles rencontres.
Alors, pas pour cette année scolaire, mais on va travailler pour une deuxième rencontre l'année prochaine. Mais sinon, tout au long de l'année, les référents adultes, développement durable se rencontrent pour monter ensemble toute une série de projets qui sont montés dans les établissements. Donc le résultat, ça sera de voir de beaux projets se réaliser dans nos écoles, nos collèges et nos lycées.
Est-ce que les jeunes, on peut dire qu'ils sont de plus en plus éco-responsables ?
Alors, est-ce qu'ils sont éco-responsables ? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont de plus en plus concernés par les causes et conséquences du réchauffement climatique et aussi la crise de la biodiversité. L'institution aussi, l'Éducation nationale a mis ça dans une de ses priorités. L'éducation au développement durable est une des priorités de l'Éducation nationale. Donc, on assiste à un moment de convergence entre l'intérêt de nos élèves, les attentes aussi de nos enseignants et les attentes de l'institution. Donc, voilà. On a un alignement de planètes qui peut nous laisser espérer de belles actions.
Je m'appelle Quentin Cluet, je suis élève en première générale au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Je suis éco-délégué également.
Alors en quoi consistait cette matinée pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Donc c'est la première rencontre des éco-délégués du réseau Bleu Endurance. Donc c'est une journée de coopération entre tous les éco-délégués du réseau. C'est une journée qui apporte beaucoup de cohésion entre les établissements, qui permet de la création de projets communs donc, et de promouvoir le développement durable qui est aujourd'hui un sujet principal et peut-être le sujet le plus primordial pour les élèves.
Est-ce que je peux vous demander quels sont les projets que vous avez présentés, vous?
Alors au sein du lycée Pierre-Gilles, on a présenté plusieurs projets, notamment l'installation de nichoirs à oiseaux et à chauves-souris pour promouvoir la biodiversité. On a également fait une réhabilitation des espaces verts avec leur protection en installant des barrières en bois commandées au lycée voisin Baudrochasse, qui est un lycée technique. Et pour cela, nous allons replanter des fleurs ainsi que toutes sortes de végétaux.
Vous avez rencontré des élus, vous avez été, on vous a remis un prix. Comment ça s'est passé?
Il y a eu la remise des prix de l'action des éco-délégués où 4 établissements des 10 sur les collèges et lycées ont envoyé des petits films qui ont été notés. Donc le jury a remis 4 prix à ces 4 établissements. Les prix c'était des t-shirts, des bibelots. On a pu avoir des temps d'échange avec des élus, notamment monsieur de la région, le représentant de la région, le représentant de la mairie, le représentant de l'agglomération déléguée au développement durable. Et c'est des temps d'échange qui forgent notre opinion et qui nous permettent de faire valoir le développement durable encore plus.
Vous-même, vous êtes très investi?
Oui, moi je suis très investi pour le développement durable. Au sein de mon lycée, j'essaye de faire le maximum de mon possible pour promouvoir le développement durable. Je suis engagé à l'échelle de ma commune également, où je fais des actions avec les comités des fêtes et en partenariat avec la mairie.
Par exemple, au lycée, il y a plusieurs actions menées contre le gaspillage. Ça fait partie de...
Alors le gaspillage, c'est un sujet sensible. On a eu du mal, c'est un sujet compliqué. Mais on essaye, avec notamment la remise en place de la commission menu la semaine dernière, on essaye de faire avancer les choses, essayer de réduire les déchets, de proposer par exemple des assiettes petites portions, de faire un peu entre guillemets à la carte. Si on veut pas de viande, on sait qu'on la mangera pas, essayer de la supprimer pour éviter de la gaspiller et essayer de trier aussi en fin de repas les déchets.
Vous avez espoir que grâce à vous les jeunes, les choses changent?
J'ai espoir et je crois en nos capacités, je crois en notre volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent être le pivot du développement durable et que nous arriverons, avec la volonté qui est la nôtre, de faire changer les choses.
Des élèves manosquins rendent la philo éloquente.
Ils sont surprenants. Des premières et terminales du lycée des Iscles ont participé à un concours d'éloquence sous la houlette de leur professeur de philosophie, Charlotte Cabane. Et à la question très philosophique, la sagesse peut-elle atteindre la jeunesse? La réponse est sans détour, absolument. Car écouter ces jeunes parler du racisme, du terrorisme, du nazisme ou encore de l'homophobie nous ravit totalement. Citant Averroès, Martin Luther King ou encore René Char, les élèves transmettent des sentiments humanistes sous la forme d'un discours à l'adresse d'un public. Un exercice difficile qui dépasse le seul cadre scolaire en les préparant à concevoir et formaliser verbalement un argumentaire. Et à ce jeu, entre autres, Sidonie, Alizé, Pierre, Gabriel et bien sûr Isma, qui a remporté le premier prix, tous furent brillants. Oui, la connaissance, la fraternité et l'amour sont des armes redoutables face à la haine, l'ignorance et la violence. Une assistance très attentive, un jury exigeant, mais aussi une belle ambiance grâce à Laurent Gournier qui sait mettre de côté les maths pour un clapping effréné. En dépoussiérant une matière parfois austère comme la philo, le lycée des Iscles a créé un événement qui restera gravé dans ses esprits juvéniles et même dans plusieurs têtes chenues. À l'issue du concours, Charlotte Cabane, puis Thierry Perlot, proviseur des Iscles, et également l'inspectrice académique Evelyne Bechtold, ont répondu à mes questions. Charlotte Cabane, vous êtes professeure de philosophie au lycée des Iscles, et c'est vous qui avez organisé ce concours d'éloquence. Une belle réussite.
Oui, c'est moi qui l'ai organisé. Nous avons eu cette idée avec Laurent. Enfin, ça faisait longtemps que je voulais organiser un concours d'éloquence parce que j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques années une élève jusqu'en finale du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Et c'est vrai qu'on avait fait des joutes oratoires, mais je trouvais que l'éloquence avait plus de pertinence. Il pouvait vraiment donner des textes beaucoup plus aboutis et je suis très contente de cet après-midi.
Comment avez-vous préparé cette prestation avec vos élèves ?
Avec les élèves, nous avons eu la chance d'avoir un atelier d'éloquence depuis le début de l'année. Au début, c'était une fois tous les 15 jours et finalement, après, ça est devenu plus hebdomadaire. Donc, nous avons pu préparer ce concours, mais nous en avons préparé deux autres, en fait, hein, le Mémorial de Caen et le Lions Club. Donc, ces plaidoiries-là, ils les ont écrites assez tardivement.
Avec des thèmes très forts, le racisme, l'homophobie, également la lutte contre les discriminations, enfin beaucoup de choses qui touchent la jeunesse et beaucoup d'expressions de la part de vos élèves.
Oui, alors moi j'ai donné simplement le sujet de la phrase de Averroès et c'est eux qui ont vraiment écrit leur texte et choisi leur thématique. Je suis très très peu intervenu dans les textes pour les laisser vraiment libres de dire ce qu'ils voulaient.
À vos côtés, Thierry Perlot, qui est le proviseur de votre établissement. Vous avez là de magnifiques relèves au niveau des élèves.
C'est une fierté tous les jours. C'est une fierté tous les jours. On a des élèves qui sont d'une maturité extraordinaire, qui sont d'une intelligence extrême et en plus qui savent parler.
Également un professeur qui a su les guider, les amener vers une expression.
Oui, ben c'est le but d'un établissement scolaire. Les enseignants sont leurs guides. Et c'est, je pense, pour Mme Cabane aujourd'hui, la plus grande des récompenses que de voir le résultat.
Est-ce que, comme moi, vous avez été surpris justement du niveau d'expression des élèves ?
Ouais, j'étais extrêmement surpris, ému. Et j'ai poussé ma larme, hein, comme je pense d'autres dans le public et dans le jury. C'était très très émouvant.
À vos côtés, quelqu'un qui est extérieur à l'établissement, mais ô combien importante, c'est Evelyne Bechtol. Vous êtes inspectrice à la philosophie dans le cadre de l'Académie d'Aix-Marseille. Comment avez-vous trouvé cet après-midi ?
J'ai trouvé ça magnifique et très émouvant. Je suis extrêmement fière et reconnaissante envers Mme Cabane, qui est vraiment une professeure de philosophie remarquable et qui s'investit de toutes les façons auprès de ses élèves. Parfois, on a l'image de la philosophie comme d'une matière aride, cérébrale, voire condescendante. Et là, avec ce que les élèves ont fait, ce que Mme Cabane fait tous les jours avec eux, on voit bien que la philosophie, c'est certes l'exercice de la raison, mais aussi l'exercice de la sensibilité. Et là, ce qui était extrêmement fort, c'est que ces élèves sont très intelligents, très cultivés, mais ils parlent aussi avec leur cœur, et c'est ce qui a touché le jury.
Qu'est-ce qui vous a touché plus particulièrement dans leur intervention ?
J'étais touchée, l'intervention d'Isma, donc il y a eu deux coupes. Ce qui m'a touchée, c'est l'incarnation, c'est-à-dire qu'elle a vraiment pris une démarche très originale en incarnant chacun des concepts. Et ce qui m'a touchée peut-être encore plus, c'est la fin de sa plaidoirie où elle dépassait la violence par l'amour. Et j'ai trouvé que les jeunes d'aujourd'hui, qu'une jeune femme d'aujourd'hui, continue à penser ça et à croire à ça. C'était absolument magnifique, c'était inattendu par rapport au début de sa plaidoirie, j'ai trouvé absolument bouleversant. J'ai trouvé aussi que tous, hein, autant qu'ils sont, certains c'est un peu moins achevé, certains ont été balayés par le trac, mais tous vraiment étaient présents et incarnaient un souci de l'autre, un souci de l'avenir, et j'ai trouvé ça magnifique.
Est-ce que ce type d'expérience est fréquente dans l'Académie ?
Il y en a quelques-uns, des concours d'éloquence. Pour autant, ce n'est pas fréquent, non. Et honnêtement, le niveau de celui-ci est quand même assez exceptionnel.
Nouveau roman de Serge Panis signe Le retour de Berlu.
Après une carrière de technicien dans différentes industries, le destin amène Serge Panis dans la vallée de la Durance, du côté de Château-Arnoux. Il va pouvoir exercer sa passion pour la photo en réalisant de nombreuses expositions et parallèlement, il pratique l'écriture en devenant correspondant de presse. Mais quelques lignes hebdomadaires ne suffisent pas à assouvir sa passion des mots et des phrases. C'est ainsi qu'il décide de noircir des pages sans prétention et juste pour le plaisir, en passant à l'écriture de son premier roman, Le secret des grottes blanches, paru en 2017. Serge Panis revient sur le devant de la scène avec la sortie de son 11e livre, Le retour de Berlu, qui est la suite directe de Qui a tué Patty, sorti en 2018. Préparez-vous à retrouver le commissaire Berlu qui est invité au mariage de ses deux anciens acolytes, Nadine et Sam. Mais pendant la cérémonie, un homme est assassiné. La sœur de Sam, Apolline, est arrêtée car ses empreintes ont été relevées sur l'arme du crime. Mais Sam ne croit pas à sa culpabilité. Avec Nadine, il se lance dans l'enquête pour tâcher d'innocenter la jeune femme. Pas facile, mais l'ancien commissaire Berlu va leur donner un coup de main. Serge Panis, l'auteur du roman, répond aux questions de Chris Alessandri.
Effectivement, quand je suis parti à la retraite, je voulais faire ce que j'avais toujours rêvé de faire, c'est-à-dire d'écrire un livre, un roman. Depuis que je suis gamin, j'aimais bien les rédactions, j'aimais bien écrire des petits mots, des petites phrases. Et là, à la retraite, j'ai dit, je vais essayer d'écrire un livre, sans savoir si j'allais arriver au bout de 10 pages. Et puis finalement, j'ai réussi à sortir un livre de 300 pages.
Ça a commencé avec Le secret des grottes blanches, c'est ça ?
Le secret des grottes blanches, l'idée m'est venue parce que il y a un film qui se tournait à Valensole et le gars m'avait dit, oh, il y a eu des petits soucis avec l'équipe de tournage, avec le village, il y avait eu des petits accros. Alors ça m'a donné une idée. Et de là est née cette histoire des grottes blanches. Ce livre, il a bien marché, ça a plu. Donc j'ai dit, bah, puisque ça plaît, je vais continuer. Et après, je suis allé en vacances cette année-là en Normandie. Je suis tombé sur le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings. Oh, j'ai dit, tiens, là, j'ai fait plein de photos avec des reconstitueurs normands. Donc j'avais fait des très belles photos. J'ai dit, ça serait bien de faire un roman là sur Guillaume le Conquérant. Mais bon, Guillaume le Conquérant, c'est un livre historique après. Je suis parti des premières invasions vikings, on va dire, jusqu'au jour où Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre. Il y a une partie historique que j'ai copiée sur les historiens. Je ne suis pas historien, je me suis beaucoup renseigné, j'ai donc écrit l'histoire vraie. Et après, au milieu du livre, j'ai écrit sur Guillaume le Conquérant. Mais là, j'ai pas mal inventé d'après des histoires. C'est avant la bataille, etc. J'ai trouvé des légendes sur les personnages et j'ai brodé dessus. Donc le livre est à moitié historique et à moitié romancé.
On peut le dire pour tous vos ouvrages parce que en même temps, bon, vous y allez avec votre identité, votre personnalité, votre imagination, il y a tout un travail d'investigation, mais au cœur même de cette histoire, on retrouve vraiment le point commun, je dirais, l'aventure.
Oui, j'écris pas simplement une histoire en disant j'écris une histoire bêtement. Quand j'écris une histoire, si j'écris une histoire qui se passe en Bretagne, je parle de choses que j'ai vues en Bretagne, de gens que j'ai rencontrés, il y a aussi du vrai. La vie de château, ça se passe dans un château, il y a des armures, je raconte l'histoire des armures. J'ai écrit un autre, un policier, où il y a une partie qui se passe en Alsace. Je suis sûr qu'un Alsacien, il va dire, putain, mais il est venu là, il connaît le nom des rues, il connaît tout un tas de trucs, parce que j'aime bien qu'il y ait de la vérité, même si je n'y suis pas aller, je me renseigne de façon à ce qui est du vrai dans mes livres. Le dernier que j'ai fait beau, là, je ne veux pas faire de biographie, d'autobiographie, je ne suis pas une vedette pour avoir une autobiographie, mais dans le livre que j'ai écrit beau, il y a beaucoup de moi, c'est de mon enfance, des souvenirs de mon enfance, quand mon père était paysan, etc., que je montais sur la charrue, que si, que là, avec le cheval, tout ça, c'est des histoires, des choses qui me sont arrivées.
Alors, ce dernier ouvrage, il a un titre qui interpelle. Pourquoi ce titre ?
Alors, il s'appelle Le retour de Berlu. Parce qu'en fait, moi, j'écris des romans suivant mon imagination, mais j'écoute mes lecteurs. Il y a un lecteur qui me dit, ouais, mais j'aime bien les romans policiers. J'ai dit, ouais, mais bon, moi, écrire des romans policiers avec tous les cas d'or qu'il y a, ça va pas être facile. Je peux pas lutter. Je me suis quand même lancé dans un policier, mais pas un policier genre 36 quais des orfèvres avec des cow-boys. C'est plutôt un commissaire bonhomme, enfin bonhomme. Il est quand même commissaire, mais il y a beaucoup d'histoires de personnages. Il y a la vie un peu du commissaire, il a des soucis avec ses marins, et puis avec sa mère, le lieutenant qui lui est un peu ripou, et puis il y a une jeune fille qui débute, etc. Donc il y a beaucoup sur la personnalité des gens. Donc j'avais écrit ce roman, il a bien plu, qui a tué Patty. Et puis là, le jour, il y en a un qui m'a dit, oh, j'aimerais bien revoir le commissaire Berlu. Alors j'ai pas l'habitude d'écrire des suites, parce que c'est pas facile une suite. Et bien là, je me suis lancé pour un autre Berlu, donc le commissaire Berlu qui est parti à la retraite sur qui a tué Patty. Ses anciens collaborateurs qui ont démissionné, ils ont vu un agent de détective, ils l'ont invité à leur mariage. Donc ils se retrouvent à Cassis au mariage de ces deux anciens collaborateurs. Seulement voilà, il y a un meurtre qui se produit pendant le mariage. Les deux jeunes, ils vont demander à Berlu de l'aider parce que en fait, on trouve un homme assassiné et c'est la sœur de son collègue là qui sort avec les mains ensanglantées. On trouve un gars qui a un couteau dans la poitrine dans la cuisine. Alors tout laisse à penser que c'est elle qui l'a tué. Donc il peut pas croire que c'est sa sœur. Alors il demande à Berlu de l'aider à chercher.
Alors on est souvent dans des affaires qui paraissent comme ça sombres. Moi je pense au grand débarras par exemple, où cette vieille dame qui est morte au milieu des gens qui sont là et qui tournent dans la brocante et qui est là depuis un moment d'ailleurs. On retrouve l'humour toujours de Serpent. L'humour, il est là omniprésent.
Moi, que ce soit dans mes photos, dans mes livres, d'abord j'aime pas le gore, j'aime pas le sang, il y aura pas de sang, il y a un mort, il y a des meurtres, mais c'est pas détaillé, on va pas chercher les... Il y a toujours de l'humour pour faire tomber le noir du livre. Dans celui-là aussi, les deux premiers chapitres, on rigole parce que c'est humoristique.
On a toujours des identités vraiment bien marquées. Comment est-ce que vous arrivez à vous inspirer de ces personnages qui sont là, qui gravitent et avec qui on a envie de partager quelque chose dans vos ouvrages ?
Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'aime bien faire des personnages vivants qui ont des caractères. Je trouve que c'est bien de donner un caractère. C'est pas qu'une enquête, c'est aussi les personnages. Le Berlu en question, il a des soucis avec sa mère, alors c'est assez humoristique parce qu'elle l'engueule comme si c'est son fils, mais comme s'il avait 10 ans. Alors il y a des passages très humoristiques dans le truc et puis ça fait tomber la pression, puis ça fait un peu languir aussi pour l'enquête. Il faut que les gens ils essaient de deviner. Alors je les fais partir sur des mauvaises pistes. Presque à chaque livre, ils partent sur une mauvaise piste. Ah c'est, oh non, mais ça peut pas être lui, ça serait trop facile. Et puis après, je les fais partir d'un autre côté, je les voyage, ils voyagent. J'ai écrit un policier qui s'appelle Cher Voisin. Les gens, ils se retrouvent en Bretagne, après ils se retrouvent en Alsace. Et pour finalement, bon, qui est le coupable? Ils ont 5 ou 6 voies possibles. Et puis à la fin, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Même dans un roman tout bête comme La Vie de Château, où c'est humoristique, on s'instruit sur les chevaux. Parce que la fille est passionnée de chevaux, donc je parle des chevaux, du Hanson, je me suis renseigné sur les chevaux. Et en plus, je m'instruis aussi parce que je ne connaissais pas les chevaux. Je suis curieux en fait et je veux partager cette curiosité avec les lecteurs.
Serpent, le retour de Berlu, si on veut l'acquérir, de quelle façon il faut procéder ?
Il faudrait mieux l'acheter parce que ça m'aiderait à faire mon impression. Bon, ça c'était un peu d'humour. Donc on peut le trouver autour de chez moi, c'est-à-dire à Château Arnoux, à la librairie de Fil en Page, qui est ma libraire préférée puisqu'elle a tous mes livres. À Sisteron, à la librairie Maison de la Presse Laugier. Après, bon, j'en ai mis à Intermarché et à la librairie de la Presse à Digne et à la Maison de Pays de Malmoisson. Moi, je suis pas pour envoyer ça sur Internet. Moi, je fais travailler les gens du coin, que ce soit l'éditeur, que ce soit l'imprimeur, les revendeurs. Eh ben, merci de m'avoir reçu et puis, ben, il n'y a plus qu'à.
Minéraux et fossiles ont leur salon ce week-end à Pierrevert.
Le salon Minéraux et fossiles de Pierrevert a lieu les 4 et 5 juin 2022 de 9h à 18h à la salle polyvalente. Un rendez-vous pour curieux et spécialistes où sont exposés pierres, fossiles et bijoux minéraux dont certains sont proposés à la vente. Président du club amateur de minéralogie et fossiles de Pierrevert, Gilles Cornat présente cette 24e édition au micro de Mathieu Marc.
C'est le 24e salon. Ça fait des années qu'il existe et il y a donc une passion qui dure au fil des années pour les pierres et les fossiles.
Oui, c'est un salon pour tous les gens qui aiment la nature, qui aiment les minéraux. C'est un salon sur lequel on peut acheter des minéraux ou des fossiles. C'est à la portée d'à peu près toutes les bourses, même celles des enfants avec leur petite tirelire. Ils peuvent ressortir de là avec de très jolies choses dans les poches. Et c'est également un salon où on trouve des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bijoux, dans la mesure où ils sont toujours en pierre authentique. Nous avons 18 exposants. Donc en nombre de pierres, je ne sais pas par combien il faut multiplier, mais disons qu'il y a une bonne quarantaine de tables qui seront très bien garnies de minéraux de toutes les couleurs et de toutes les provenances.
Et donc cette passion, elle vient comment ? Vous, elle est venue comment, cette passion des pierres ? Vous êtes tombé dessus un jour et...
Je suis un petit peu tombé dessus quand j'avais 10 ans. Si j'étais Obélix, j'aurais dit que j'étais tombé dedans, mais non, je me serais fait mal. Mais c'est une passion qu'ont beaucoup d'enfants et qui aiment beaucoup les minéraux. C'est un plaisir d'ailleurs de les voir sur le salon de Pierrevert avec les yeux qui brillent devant les améthystes, les quartz, tous les cristaux de couleur.
Et on trouve de tout ça, de toutes ces pierres que vous venez de citer dans nos collines provençales ?
Ah, on trouve pas mal de pierres dans les collines provençales. Oui, on trouve pas mal de choses, même sur toute la France. Vous savez qu'en France, on peut à peu près trouver tous les minéraux excepté les diamants. On peut trouver des rubis, on peut trouver des saphirs, on peut trouver tout un tas de choses absolument extraordinaires. Alors bon, c'est pas toujours des grosses pièces, mais les saphirs, par exemple, du Massif Central, sont montés en bijouterie encore de nos jours, et c'était la principale source de pierres précieuses au Moyen-Âge.
Et par exemple, là, en se promenant sur les chemins de Provence, on tombe régulièrement sur des fossiles. Mais des pierres de ce type, comment on les trouve? Il y a des filons, des mines, c'est comme les coins à champignons, il faut les connaître.
C'est un peu comme les coins à champignons, ça recoupe un petit peu d'ailleurs les passions, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé d'aller chercher des minéraux et puis tomber sur les champignons et changer un peu d'objectif, quoi. Et on trouve beaucoup de fossiles puisqu'on est dans les préalpes, hein, ou dans les Alpes calcaires, et là on trouve vraiment beaucoup de fossiles. Ouais.
Et alors, toutes ces pierres que vous trouvez dans le cadre du club, elles sont exposées lors de cette exposition? C'est l'intérêt, cette exposition, ou il y a des pierres qui viennent d'autres endroits ou qui viennent de collections privées? Quelles pierres peut-on voir ces 4 et 5 juin?
Alors, les 4 et 5 juin, vous aurez des exposants qui sont des exposants du club de minéraux de Pierre Vert. Donc, vous aurez des minéraux qui seront tout à fait régionaux. On a de très exceptionnels géodes de quartz de Provence. Vous y trouverez également des minéraux du monde. Il y a des choses qui sont importées du monde entier. Nos exposants viennent principalement du quart sud-est de la France.
Et lors de cette exposition, les pierres sont sous vitrine, ou bien il y a des petits fascicules explicatifs, il y a des panneaux? Comment ça se passe?
Alors, il y a parfois des explications écrites, mais en général, c'est un petit peu ça que nous privilégions sur un salon, c'est le contact avec les gens, de leur donner les explications en prenant le temps qu'il faut, et puis d'informer les enfants qui sont très très avides de connaissances du côté minéralogie et fossiles.
Vous accueillez combien de personnes généralement, puisque c'est le 24e, alors pas forcément à Pierre Vert depuis 24 ans, mais en tout cas vous avez une sorte d'habitude, un public peut-être acquis?
Il y a un petit peu des gens qui reviennent tous les ans, bien que là on ait eu 2 ans d'interruption forcée, mais je pense que les gens reviendront parce que nous sommes le seul salon de minéraux et fossiles dans le département.
Le seul salon? Est-ce que vous êtes le seul club? Non, il y a d'autres clubs dans le coin?
Ah non, nous sommes le seul club du 04.
S'il y a des auditrices, auditeurs qui nous écoutent et qui sont intéressés aussi par ce club, comment on vous contacte sur les réseaux sociaux? Vous avez un site internet?
Alors, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux ou sinon directement par demander les coordonnées par la mairie de Pierre Vert. Nous sommes très en contact avec la mairie de Pierre Vert, qui nous aide d'ailleurs pour la création d'un musée que nous avons développé. Et la mairie de Pierre Vert nous prête un local. Et ce musée est ouvert sur rendez-vous ou bien directement les samedis des mois de juillet et août.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie et à la semaine prochaine.